J'enregistre ce balado 6 jours après l'éclipse totale de soleil du 8 avril 2024 et je vais être honnête avec vous, j'avais pas l'intention de faire un épisode sur les éclipses. Il y en a été grandement question dans nos médias, je voyais pas ce qu'il y avait à ajouter. Mais j'ai quand même eu envie d'aller voir comment les journaux avaient couvert l'éclipse solaire totale qui avait touché une bonne partie du Québec en 1932 et en lisant ça. J'ai pas pu m'empêcher de vous en parler, ne serait-ce que pour comparer la couverture médiatique et la réaction populaire à ces deux événements, à 92 ans d'intervalle, maintenant qu'on a vécu notre éclipse totale à nous. Un peu de contexte, 1932, on est en plein cœur de la grande crise économique des années 1930, on a des taux de chômage dans les 20%, des milliers de familles doivent se tourner vers l'assistance publique pour survivre. S'il y a un moment où on avait besoin de distraction, c'est bien en ce début des années 1930. Et on annonce une éclipse totale de soleil, ou pour citer Le Devoir, « s'il est un phénomène susceptible de tirer de leur torpeur ou de leur léthargie les plus indifférents, c'est bien celui qui se produira le 31 août, lors de l'éclipse totale de soleil dont plusieurs villes et villages de la province de Québec seront favorisés. » Dans le même article, on parle des lois de l'astronomie et de l'orbite des astres avant d'ajouter « nous y voyons l'irrécusable manifestation de l'ordre imprimé à l'univers par un être, avec un E majuscule, dont la puissance dépasse infiniment en grandeur l'idée qu'on peut s'en faire. » Ça ne vous surprendra probablement pas, mais il a beaucoup plus été question du rôle joué par le Créateur en 1932 qu'en 2024. Parlons d'abord de l'événement du 31 août 1932 en lui-même. L'Amérique du Nord presque entière a eu droit à une éclipse partielle, mais la zone de totalité formait un croissant de près de 100 milles de largeur, on comptait en milles à ce moment-là, de la baie d'Hudson au Cape Cod, si vous préférez. On a donc eu droit à une éclipse totale dans des portions des actuels territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, au Québec, au Vermont, au New Hampshire, au Massachusetts et dans l'État du Maine. Dans la partie est de Montréal, il n'y a pas eu d'éclipse totale dans l'ouest. On annonçait le début du phénomène pour 3h14 de l'après-midi. La totalité à 4h24 et à 5h29, tout serait revenu à la normale. On prévoyait 36 secondes de totalité dans la métropole, contre près de 100 secondes à Magog, Sorel et Acton Vale, et la championne de l'éclipse de 1932, avec ses 102 secondes d'obscurité, était la municipalité de Parent, en Haute-Mauricie, située à 150 km au nord-ouest de Latuc. On a beaucoup parlé de l'éclipse de 2024 avant le 8 avril. On s'est même parfois demandé si c'était pas un peu exagéré. Mais croyez-moi, les journaux de 1932 ont offert une très, très vaste couverture de leur éclipse. Le journal La Patrie a consacré une page et demie de son édition du 9 avril, donc presque 5 mois à l'avance, au phénomène sous le titre « Montréal dans les ténèbres de l'éclipse ». Le 31 août à 3 heures, le public stupéfié verra le ciel étoilé aussi nettement qu'à minuit. Et on nous offrait des photographies, des cartes, des recensions d'éclipses des temps anciens. Et dans une édition subséquente, on disait « nos lecteurs se souviennent que La Patrie a été le premier journal de la province de Québec à donner en exclusivité tous les détails de la grande éclipse. Et nous serons heureux, d'ici la fin d'août, de fournir au public le plus de détails possible à ce sujet. » C'est vraiment à partir du 1er août que la couverture devient constante. On en parle dans les journaux pratiquement tous les jours. Et un sujet qui revient souvent, c'est l'intérêt des scientifiques, surtout les scientifiques étrangers, pour ce qui allait se passer chez nous. On nous annonce par exemple l'arrivée d'un paquebot en provenance d'Europe à bord duquel était monté un groupe de savants de la Royal Astronomical Society de Londres qui avait amené 40 caisses d'instruments scientifiques pour étudier l'éclipse. Un groupe d'astronomes anglais était à Parent, où ils avaient déployé un télescope de 45 pieds pour photographier la couronne du soleil. Vous aviez des scientifiques français à Louisville, en Mauricie, des Américains à Magog. Et ça, je pense que pour beaucoup de monde, peu habitué à ce qu'on s'intéresse au Québec, c'était un signe. Si autant de gens des vieux pays et des États, comme on disait, venaient voir l'éclipse chez nous, ça devait vouloir dire que c'était un phénomène majeur et donc digne d'intérêt. Notre éclipse de 2024 a été diffusée à la télévision, sur le web et ailleurs. On ne disposait pas de ce genre de technologie en 1932, mais on a diffusé l'éclipse en direct à la radio. L'idée, c'était de fournir un commentaire, une explication à ce qu'on était en train de voir. À la station CKAC, on a fait appel à trois experts canadiens-français. Ernest Gendreau, professeur de physique à l'Université de Montréal, qui s'est posté pour l'événement sur le toit de l'université. Université qui est située à ce moment-là dans le quartier latin, rappelons-le. L'UdeM ne s'est installé sur le Mont-Royal que dans les années 1940. Les deux autres experts étaient des religieux spécialistes de l'astronomie et de la météorologie, le frère Robert du Collège Mont-Saint-Louis et Monseigneur Charles-Philippe Choquette de Saint-Hyacinthe. Monseigneur Choquette est un ancien professeur d'astronomie qui en était à sa troisième éclipse de soleil. Pour sa part, la station anglophone CFCF était branchée sur les spécialistes de l'Université McGill et son programme a été diffusé aux États-Unis par la National Broadcasting Company, NBC, qui était un réseau radiophonique avant de devenir un réseau de télé. L'excitation était palpable dans les jours avant l'éclipse, ça se passait un mercredi. C'était au tour de la presse de consacrer deux pages à l'événement. On a publié notamment un gros photomontage montrant de quoi aurait l'air Montréal plongé dans les ténèbres en plein jour. Et dans tous les articles que j'ai vus, il y avait une grande volonté d'instruire le public sur l'astronomie et sur la mécanique d'une éclipse. On s'adressait à une population passablement moins éduquée que celle qui a assisté à l'éclipse de 2024, mais j'ai pas senti qu'on voulait niveler par le bas, qu'on voulait pas trop donner d'informations de peur que les gens décrochent, je vous dirais, au contraire. Et s'il y a beaucoup été question de l'insistance qu'on a mis à dire et à redire aux gens qu'il était dangereux de regarder l'éclipse à l'œil nu au moment de l'éclipse de 2024 et dans les jours précédents, la majorité des articles de 1932 que j'ai vus le mentionnaient également. On ne disait pas aux gens de s'acheter des lunettes adaptées, par contre. C'était pas tellement dans l'air du temps d'acheter des choses. On conseillait généralement de regarder à travers un film d'appareil photo entièrement noir, avec des lunettes fumées, ou à travers un morceau de verre fumé sur la flamme d'une chandelle. Je ne vous garantirai pas la sécurité de ces différentes méthodes, mais une chose est certaine, les consignes ont changé, mais on les donnait quand même, je vous dirais, avec beaucoup d'emphase, surtout pour l'époque. Autre question polarisante, les écoles, ouvertes ou fermées. Lors de l'éclipse de 1932, la Commission des écoles catholiques de Montréal avait, dépendant des journaux qu'on regarde, soit donné congé à ses élèves ou fait finir les classes plus tôt pour permettre aux jeunes de profiter du phénomène. C'était à peine la deuxième journée d'école de la nouvelle année et déjà un congé. Mais bref, on avait choisi de fermer. Le jour J arrive, on sait qu'il va faire chaud, maximum 82 degrés en cette fin du mois d'août, donc presque 28 Celsius, mais on annonce du temps couvert. Et comme de fait, il y a certains endroits où on a pu voir l'éclipse, à Sorel notamment, où s'étaient rendus 2000 touristes, on avait un ciel dégagé. À Actonvale, on a eu des conditions parfaites, même chose à Louisville et à Trois-Rivières, mais la majorité des Québécois situés dans la zone de totalité et des scientifiques de partout dans le monde n'ont rien vu. Ils et elles ont pu apprécier la nuit noire, mais pour le reste, comme le disait la presse, la nuit de l'éclipse a passé brusquement sur Montréal, mais elle a laissé les savants navrés et le peuple désappointé, parce que les bataillons serrés de nuages qui roulèrent tout l'après-midi en masse profonde avaient masqué le plus beau du phénomène. C'était bien la peine d'être situé en pleine zone privilégiée, d'avoir nourri depuis longtemps d'ardentes expectatives, tenues en éveil par les explications savantes fournies par les professeurs et les journaux. Déjà vers 4 heures, les yeux et le nez levés sur le firmament impénétrable, les gens ont envahi les coins de rue, les galeries, les parcs et surtout les toits. On distinguait des grappes humaines sur le toit de l'édifice de la Sun Life, des édifices de la rue Saint-Jacques. On voyait du monde perché sur l'oratoire Saint-Joseph. Les aérodromes de la région de Montréal étaient emplis d'une foule sur le qui-vive. De même, le flanc de la montagne et le parc La Fontaine. Et pourtant, les pronostics désappointants en ont éloigné un grand nombre qui croyaient déjà à une bonne blague. Les écoles et les bureaux étaient vides, on dirait un samedi après-midi. Les files d'automobiles se stationnaient aux endroits stratégiques, verts fumés et vieux négatifs à la main. La métropole brûlait de mille feux, attendant la nuit qui allait descendre sur elle. Et la nuit est venue, étrange et fantasmagorique. une nuit étrange de quelques secondes qui a passé comme un souffle de Dieu. Tout est passé en un clin d'œil. L'air s'est rafraîchi soudain par degrés rapides et la nuit de mystère tomba sur la ville, en secondes saccadées, de plus en plus noires. L'enthousiasme qu'on a pu voir dans l'extrait que je vous ai cité n'était pas limité à la zone de totalité. On nous dit que les gens étaient au rendez-vous dans d'autres coins du Québec. On parle de foules considérables sur les plaines d'Abraham et sur la terrasse Dufferin à Québec, où on a eu du beau temps pour voir une éclipse partielle. Mais tout ça pour vous dire que l'excitation ressentie en 1932 me semble tout à fait comparable à ce qu'on a vécu. La couverture médiatique est assez similaire. La grosse différence, c'est que nous avons eu la chance de voir le phénomène. Nos parents, nos grands-parents qui étaient là en 1932, ont dû se contenter de vivre la nuit fantasmagorique de la totalité. Et ça, ben, c'est déjà quelque chose.